Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 13 mai, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, en RCA, une journaliste française assassinée dans la région de Bouar. À Bangui, fin de la mission des experts de la Cour pénale internationale.
Nous n'avons pas encore décidé de l'ouverture d'une enquête sur ces crimes récents. Nous devons évaluer un certain nombre de critères objectifs qui doivent nous mener à prendre une telle décision.
Nigeria, la traque de Boko Haram se poursuit après l'offre du groupe islamiste de négocier la libération des lycéennes enlevées à Borno. Affaire de l'avion présidentiel au Mali, près de 20 milliards de francs CFA dépensés. Les Maliens s'interrogent.
La communauté internationale est en train de venir en appui au Mali. Ce n'est pas ce moment qu'on doit nous mettre à faire des dépenses, de l'indiscipline.
Reportage à suivre de notre correspondant à Bamako. Vague d'attentats en Irak, au moins 25 morts et plusieurs dizaines de blessés. Sans oublier les sports et la musique, mais avant, le journal.
Camille Lepage, une photojournaliste de 26 ans, a été assassinée en République centrafricaine, selon un communiqué de l'Élysée, repris par les agences de presse. Sa dépouille a été trouvée lors d'une patrouille de la force Sangaris à l'occasion d'un contrôle effectué sur un véhicule conduit par des éléments anti-Balaka de la région de Bouar, précise la présidence de la République française.
Toujours en République centrafricaine, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, exhorte les humanitaires à poursuivre leurs actions dans le pays. Elle s'est entretenue ce matin avec une forte délégation d'agents humanitaires au siège de la présidence à Bangui. Par ailleurs, trois enquêteurs de la CPI ont bouclé hier une mission d'une semaine dans la capitale centrafricaine. Le point avec Timothée Donangmaï.
La présidente de la transition a reconnu le rôle important joué par les organisations nationales ou internationales pour soutenir les populations en détresse. Elle les a donc encouragées à poursuivre leurs actions là où les besoins se font sentir. De leur côté, les humanitaires réclament plus de sécurité dans des zones contrôlées par des hommes armés. Par ailleurs, les experts de la Cour pénale internationale dépêchés à Bangui pour un examen préliminaire sur les exactions commises dans le pays ont bouclé une première mission d'une semaine. Pascal Turlan est conseiller en coopération judiciaire au bureau du procureur de la CPI.
Nous sommes là dans le cadre de l'examen préliminaire qui a été ouvert le 7 février dernier par Mme Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, et qui vise à déterminer si tous les éléments sont remplis ou non pour que la Cour ouvre une enquête sur la situation des crimes récents qui auraient été commis en Centrafrique environ depuis la mi-2012. Ça veut dire que nous n'avons pas encore décidé de l'ouverture d'une enquête sur ces crimes récents. Nous devons évaluer un certain nombre de critères objectifs qui doivent nous mener à prendre une telle décision.
Notons que la mission conduite par le Sénégalais Amadiba était composée de trois personnes.
Pas de répit dans la traque de Boko Haram pour secourir les lycéennes enlevées dans le nord du Nigeria. Ces efforts bénéficient de l'appui de plusieurs pays, dont les États-Unis. Selon l'agence France Presse, le commandant des forces armées américaines en Afrique, le général David Rodriguez, est arrivé ce mardi à Abuja pour s'entretenir avec les autorités nigérianes. Les experts occidentaux venus appuyer les autorités nigérianes sont à pied d'œuvre pour aider à localiser les captives et leurs ravisseurs. Issa Napon.
Des avions espions américains survolent le nord du Nigeria pour essayer de localiser les quelques 200 lycéennes enlevées depuis bientôt un mois. Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont envoyé des équipes sur le terrain. À Abuja, les experts américains scrutent la dernière vidéo postée par Boko Haram, dans laquelle on voit une centaine d'adolescentes présentées comme les lycéennes kidnappées. Adiza Bala Ousmane, coordinatrice nigériane de la campagne sur Twitter pour la libération des jeunes filles, a indiqué que trois parents ont identifié leurs enfants sur la vidéo. Les manifestations de soutien, elles, se poursuivent dans le monde. Ce matin à Paris, tout comme hier à Dakar, les femmes ont battu le pavé pour exiger la libération des lycéennes.
Marouf Ould Aïba, un Mauritanien qui purgeait une peine de prison pour les meurtres de quatre touristes français en décembre 2007, est décédé lundi en détention. Jacques Aristide.
L'homme de 35 ans était l'un des trois membres présumés de la branche nord-africaine d'Al-Qaïda, Maarouf Ould Haïba, aux côtés de Sidi Ould Sidna et Mohamed Ould Chabarnou, avait été condamné à la peine capitale en 2010 pour avoir tué par balle les quatre touristes français à Alleg. La Mauritanie n'ayant plus appliqué la peine de mort depuis les années 1980, les détenus en compagnie d'une dizaine d'autres avaient été transférés en mai 2011 de la prison centrale de Nouakchott à un lieu secret dans le nord du pays. Un transfert qui avait été dénoncé à l'époque par Amnesty International. Des journaux en ligne rapportent que la famille de Maarouf Ould Haïba a déclaré n'avoir reçu aucune information officielle sur sa mort et a fustigé ce qu'elle appelle l'attitude irresponsable de l'État mauritanien dans cette affaire.
Situation sécuritaire en Libye, l'ambassadeur jordanien enlevé en avril à Tripoli a été libéré ce mardi. Selon l'AFP, un djihadiste libyen a été remis en contrepartie. Bagassi Koura.
Fawaz Al-Aitan est arrivé à Amman, en Jordanie, à bord d'un appareil militaire. Le diplomate avait été enlevé à la mi-avril et son chauffeur blessé par balle dans une attaque contre son convoi à Tripoli. Son enlèvement n'avait pas été revendiqué, mais des sources libyennes avaient affirmé que les ravisseurs réclamaient la libération de Mohamed Saïd Al-Dursi. Un député jordanien a laissé entendre qu'Al-Dursi avait déjà été remis aux autorités libyennes qui n'ont pas confirmé ni infirmé cette allégation. Mohamed Saïd Al-Dursi, alias Mohamed Al-Nos, avait été condamné en 2007 à la réclusion à perpétuité et était détenu en Jordanie pour son implication présumée dans la planification d'un attentat à l'aéroport d'Amman.
Conflit au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont pour responsabilité d'accélérer la dynamique de paix dans leur pays. C'est ce qu'a déclaré Ban Ki-moon au Conseil de sécurité aujourd'hui. Nicolas Pinault.
Oui, le secrétaire général de l'ONU a exprimé ses préoccupations concernant de possibles violations du cessez-le-feu. Les dirigeants sud-soudanais ont pourtant signé un accord de paix vendredi dernier. Le texte appelle à la fin des combats et à la mise en place d'un gouvernement de transition. Le chef de l'ONU a également évoqué la situation humanitaire au Sud-Soudan, puisqu'en 5 mois de crise, des milliers de personnes sont mortes, plus d'1 million d'autres ont été déplacées et près de 5 millions de Sud-Soudanais ont besoin d'assistance humanitaire, a-t-il rappelé. Ban Ki-moon prévient, si le conflit se poursuit, la moitié de la population sera soit déplacée ou réfugiée à l'étranger, soit affamée, soit morte d'ici la fin de l'année. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir rompu la trêve, des affrontements qui ne devraient pas arrêter les négociations en Éthiopie, estime cependant Riek Machar.
Le procès d'Oscar Pistorius se poursuit en Afrique du Sud. Les procureurs exigent que le coureur paralympique soit soumis à une évaluation psychiatrique. La requête fait suite à un témoignage de la défense affirmant qu'Oscar Pistorius est affecté par les troubles d'anxiété généralisés. Une maladie chronique qui provoque la peur et l'inquiétude. Rappelant que Pistorius est poursuivi pour le meurtre de sa petite amie, les procureurs l'accusent d'avoir délibérément tiré sur Riva Steenkamp. La défense prétend au contraire qu'il pensait tirer sur un intrus.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert a été condamné à 6 ans de prison pour avoir accepté des pots de vin pendant qu'il était maire de Jérusalem. Idrissa Seydoudia.
Monsieur Olmert, qui était présent au tribunal à Tel Aviv pour entendre la sentence, se promet d'interjeter appel. Il est innocent, continue de dire son avocat Eli Zohar. Il n'a pas pris de pot de vin, il n'a pas reçu de pot de vin, il se considère innocent et s'est animé de ses sentiments qu'il se rendra devant la Cour suprême pour faire appel. Le 31 mars, le tribunal avait trouvé M. Olmert coupable d'avoir empoché 160 000 dollars pour aider à faire avancer le contrat du complexe immobilier Holy Land à Jérusalem. Ce scandale n'était que le dernier exemple d'une série d'allégations de corruption qui avait forcé Ehud Olmert, premier ministre de 2006 à 2008, à démissionner de la tête du gouvernement israélien.
En Irak, une vague d'attentats a fait au moins 25 morts et 75 blessés dans les principaux quartiers chiites de la capitale. On compte au moins 8 explosions à Bagdad aujourd'hui. Le pays a connu ces derniers temps les pires actes de violence depuis 2008. Selon les Nations Unies, de janvier à aujourd'hui, au moins 3500 civils et militaires irakiens ont péri dans des attentats. Le bilan pour toute l'année 2013 était de 7800.
Visite en Ukraine du ministre allemand des Affaires étrangères. L'objectif est de faciliter le lancement d'un dialogue entre le gouvernement et les séparatistes pro-russes de l'Est. Frank-Walter Steinmeier arrive à Kiev avec un message de soutien au dialogue national dans le cadre d'un plan élaboré par l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Sa visite intervient 2 jours après la déclaration d'indépendance de 2 régions de l'Est ukrainien, Donetsk et Lugansk. Selon les séparatistes, au moins 90% des habitants de ces 2 régions ont voté dimanche en faveur de la sécession. Les résultats n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.
Le médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe dans la guerre en Syrie, l'ambassadeur Lakhdar Brahimi, a démissionné. Le secrétaire général Ban Ki-moon a accepté cette démission qui sera effective à partir du 31 mai. L'ancien ministre des Affaires étrangères algérien travaille depuis près de 2 ans à la recherche d'une solution diplomatique à 3 années de guerre civile en Syrie.
Un incendie dans une mine de charbon dans l'ouest de la Turquie a tué au moins 4 mineurs et piégé plus de 200. Selon certains responsables, l'incendie a été causé par une explosion suite à une panne électrique. Un rapport antérieur faisait état de 20 morts, mais il a été rétracté.
Et le plus haut tribunal de l'Europe s'est prononcé sur un cas découlant d'une plainte portée contre le géant de la recherche Internet Google. Selon le verdict de la Cour européenne de justice, des particuliers peuvent réclamer des entreprises Internet le retrait des informations les concernant. Google a exprimé sa déception, disant que le verdict diffère totalement de l'opinion de l'avocat général. Les opérations européennes d'autres sociétés comme Yahoo et Microsoft sont également affectées par la décision.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, au micro Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Au Mali, l'achat d'un nouvel avion au présidentiel est au cœur de toutes les causeries et échanges, Chérubin.
Oui, on en parle même dans les mosquées. Et selon le président de la République, cet avion a coûté à l'État malien 19 milliards de francs CFA. Mais son premier ministre Moussa Mara a annoncé 20 milliards devant les députés. Cette affaire pousse beaucoup de Maliens à s'interroger sur l'avenir du pays et à se demander s'ils ont fait le bon choix en votant pour Ibeka en août 2013. Le reportage de Kassim Traoré.
La polémique actuelle autour de l'achat de l'avion présidentiel a commencé il y a 1 mois. Mais c'est l'intervention du Premier ministre au niveau de l'Assemblée nationale qui a aggravé la situation. Moussa Mara.
Pour ce qui concerne l'avion, encore une fois, l'emprunt qui est sollicité n'a pas un caractère de traité à soumettre à l'Assemblée nationale. L'emprunt qui est sollicité est inscrit et sera inscrit dans le budget rectificatif qui va arriver à l'Assemblée nationale. Et vous aurez l'occasion de vous prononcer dessus.
Interpellé par un député de l'opposition, le Premier ministre a fait savoir que l'avion présidentiel a coûté 20 milliards de francs CFA. Il vient d'être contredit par le président de la République qui avance 19 milliards. Amadou Koïta, de l'opposition.
Nous avons également appris que le FMI, le Fonds mondial, demande aujourd'hui des éclaircissements. Je pense qu'ils ont parfaitement raison puisque la communauté internationale est en train de se mobiliser pour le Mali. La communauté internationale est en train de venir en appui au Mali. Ce n'est pas ce moment qu'on doit nous mettre à faire des dépenses, de l'indiscipline budgétaire. Nous demandons non seulement au pouvoir, savoir que la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que les Maliens puissent sortir de cette crise.
Les partisans du président de la République ne sont pas paniqués. Ousmane Traoré, de la jeunesse RPM du Badjalan 3.
Mais l'opposition, il y a des gens qui s'opposent à l'achat de l'avion, alors que ce n'est rien. Parce que c'est pour faire l'honneur du Mali. Alors que si tu as ton président loué un avion, ça c'est une humiliation et puis ça coûte cher. Mon point de vue quand même, c'est une bonne chose.
La société civile malienne souhaite que la vérité soit dite dans cette affaire d'achat d'avion. Ici à Kassisio.
Dans la récente interview par exemple du président de la République dans Jeune Afrique, il parle de 19, et quelques milliards, mais pas 20 milliards. Or c'est le premier ministre qui avait dit à l'Assemblée nationale que l'avion a été acheté à 20 milliards. Donc il y a un problème à ce niveau. Je crois que quelque part, on ne dit pas toute la vérité aux Maliens.
Dans le monde scolaire et universitaire, personne n'a compris l'achat de cet avion par le président de la République. Safia Toucham, étudiante.
L'avion présidentiel qu'Ibeka a acheté, ce n'était pas le moment. Il y avait d'autres priorités qui devraient faire face, comme l'agriculture, l'éducation, et ainsi de suite.
En tout cas, les Maliens ne comprennent plus les attitudes de leur président de la République, qui est en train de reconstruire son domicile privé à hauteur de 2 milliards de francs CFA à Sebenikoro d'acheter des voitures de luxe, un train de vie qui dépasse les budgets d'un pays en crise comme le Mali. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Le Cameroun a annoncé que ses soldats ont tué 5 braconniers trafiquants d'ivoire présumés dans un parc national de l'extrême nord du pays. Certains des suspects seraient des miliciens janjaouides venus du Soudan. Les précisions de Michel Joseph.
Lourdement armés, les braconniers ont été interceptés dans le parc national de Ouaza alors qu'ils tiraient sur des éléphants. Une fusillade s'en est suivie avec des militaires camerounais déployés pour protéger les pachydermes et 5 suspects ont été abattus, a expliqué le colonel Didier Badjek, porte-parole militaire.
Les bataillons d'intervention rapide ont été déployés dans le parc avec des combattants aguerris accompagnés par une logistique conséquente. Pour parvenir aux résultats escomptés, des patrouilles terrestres, motorisées et aériennes ont été organisées, une dizaine de chevaux saisis et plus de 2000 munitions de guerre de divers calibres récupérées. La récupération de 88 pointes d'ivoire qui ont été remises au ministère des Forêts et de la Faune.
Frontalier du Nigeria et du Tchad, le parc national de Ouaza abrite 1 millier d'éléphants. Les militaires camerounais disent travailler avec les populations locales pour obtenir des renseignements sur les braconniers, mais par crainte, beaucoup d'habitants ont quitté les lieux. Le braconnage a décimé un grand nombre d'éléphants d'Afrique, dont les défenses d'ivoire sont très demandées en Asie, en dépit d'un traité de 1989 interdisant ce commerce. Les revenus qu'ils génèrent financent souvent les activités de groupes rebelles dans divers pays. Le Fonds mondial pour la nature ne cesse d'exhorter les pays asiatiques à sévir contre le trafic d'ivoire, explique le directeur pour l'Afrique centrale de cette organisation, Hanson Langmier. Ils utilisent l'ivoire pour beaucoup de choses, des ornements, et certains pensent aussi que lécher de la poussière d'ivoire peut augmenter votre puissance, ce qui n'est pas vrai, mais c'est une croyance traditionnelle ancrée dans ces régions. Selon les groupes de défense de la nature, la population d'éléphants africains a diminué de 62% au cours des 20 dernières années. L'année dernière, 100 éléphants ont été tués au Cameroun, une amélioration par rapport à 2012, quand 300 de ces pachydermes sont tombés sous les balles des braconniers.
Le Monde aujourd'hui, sur la Voix de l'Amérique. Un responsable de l'ONU affirme que les activités des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, en Afrique centrale, ont été considérablement réduites. Toutefois, Joseph Kony, recherché par la communauté internationale, est toujours en activité. Nathalie Barge.
Abou Moussa, le chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, a déclaré au Conseil de sécurité lundi que la campagne militaire et les défections des rebelles ont affaibli la LRA. Il note une baisse continue du nombre de meurtres, d'enlèvements et de personnes déplacées.
Maintenant, nous devons procéder collectivement pour faire en sorte que Kony soit lui-même retiré du champ de bataille afin que les populations, les personnes déplacées, les réfugiés puissent tous rentrer à la maison et vivre en paix.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, affirme qu'il y a des sources crédibles suggérant que Kony et d'autres commandants de la LRA auraient récemment trouvé refuge dans la région de Kafia-Kingi, qui est contrôlée par le Soudan. Monsieur Moussa indique que Kony se déplace régulièrement dans la région boisée frontalière au Soudan du Sud et à la République centrafricaine et que la plupart des activités de la LRA sont dans ce dernier pays.
Il a peut-être été aperçu, mais cela ne signifie pas qu'il est immobile, car il sait qu'il est pourchassé. Nous avons des troupes à sa poursuite quotidiennement.
Le Soudan affirme ne pas abriter Kony et dit que Kafia-Kingi est une zone inhabitée. Samantha Power, ambassadeur américaine à l'ONU, a appelé Khartoum à travailler avec l'Union africaine pour enquêter sur l'observation rapportée et à ne pas soutenir la LRA.
Any government should be embarrassed to be sheltering the Lord's Resistance
Army. Tout gouvernement devrait avoir honte d'abriter l'armée de résistance du Seigneur. Après un quart de siècle de brutalité impitoyable, la LRA ne devrait pas être tolérée ni soutenue par quiconque. Le Conseil de sécurité a publié une déclaration félicitant les progrès réalisés contre la LRA et souligné que l'élan doit continuer jusqu'à l'élimination de la menace. L'ONU signale une diminution spectaculaire du nombre de déplacés par la LRA, passant de 420 000 personnes en mars 2013 à 160 000 en mars de cette année. Joseph Kony a mené une guérilla brutale contre le gouvernement ougandais pendant près de deux décennies, avant de s'enfuir en 2005 avec ses combattants dans les jungles de l'Afrique centrale. Il est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Savez-vous quel est le meilleur attaquant africain, Dembaba ou Samuel Eto'o? Quant à moi, je crois que Gervinho est meilleur que ces deux-là. Vous pensez que j'ai tort? Eh bien, dites-nous quelle est votre équipe All-Star 2014. Pour cela, sélectionnez un gardien, un défenseur, un milieu et un attaquant sur notre site, lavoixdelamérique.com. Le vote commence le 15 mai.
L'implication de l'entreprise dans la promotion des actions culturelles et sociales permet de la valoriser et de renforcer la notoriété autour de son enseigne, de ses produits et de ses marques commerciales. Nous sommes au Sénégal.
Et c'est dans cette perspective que le Sénégal a décidé de faire voter le Parlement une loi régissant les actions caritatives des entreprises afin d'encourager les initiatives privées et relancer les actions de mécénat. Mais ce projet de loi est rangé dans les tiroirs depuis 5 ans. Aujourd'hui, la Biennale de Dakar est une occasion de reposer la question du mécénat. Diana Basseidouba.
Le financement de la culture au Sénégal pose problème. La créativité a un coût et cet argent est inaccessible. Vie Diba est artiste visuel. Selon lui, la culture ne peut pas pour le moment faire partie des moteurs de l'économie nationale. Vie Diba est aussi professeur à l'École nationale des arts.
Parce que depuis 50 ans, on a pris fausse route. On nous a fait croire des choses, mais au finish, la culture ne peut pas être le moteur de développement. Parce que, en réalité, toute économie est d'essence créative. Le problème, c'est de comprendre ces yeux que vraiment, la nature du développement, ça ne signifie pas la modernité. La modernité, ça s'achète. Le développement, ça se crée.
Un projet de loi sur le mécénat a été rédigé, ça fait maintenant 5 ans. Le mécénat, pour le comprendre, écoutons Sylvain Sankalé, juriste. C'est lui qui a écrit ce projet de loi.
Les sociétés ou les individus payent des impôts qui sont proportionnels aux bénéfices qu'ils ont réalisés. Donc, si la loi prévoit que les dépenses faites dans le domaine culturel peuvent être considérées comme des dépenses faites dans l'intérêt de la société, ça permet à la société de réduire ses bénéfices et donc de payer moins d'impôts.
Depuis, cette loi n'est pas passée à l'Assemblée nationale. Une situation qui désole les artistes qui pensent que les autorités doivent être conscientes des enjeux. Vie Diba.
C'est un enjeu essentiel. Accompagner, c'est ce qui crée. Pour donner du crédit à ce pays, c'est ça le sens du mécénat. Je crois que ceux qui sont à l'origine de la lenteur de cette loi ne comprennent pas les enjeux vraiment de ce monde. Notre monde, c'est un monde qui absorbe, qui dévore. C'est ce qui ne prenne pas d'initiative. Qu'on essaie vraiment de trouver une solution au problème grave du financement de notre culture, ça c'est un enjeu extrêmement important.
Le juriste Sylvain Sankalé tente d'apporter des explications à ces lenteurs.
Il y a une nécessaire conjonction de volonté, d'intention et d'action entre le ministère de la Culture, qui est évidemment le premier intéressé par les résultats, et le ministère des Finances, qui est le premier intéressé par la perte d'argent qu'il fait, la perte de ressources. Donc vous pensez bien que l'approche n'est pas du tout la même selon qu'on se situe côté finance ou côté culture. Et il faut arriver à trouver la moins mauvaise solution qui puisse satisfaire tout le monde. Et ces ajustements nécessitent déjà des rencontres interministérielles, des discussions et un arbitrage. L'État a peut-être intérêt à ce qu'on s'occupe moins de la culture, mais qu'on lui rapporte de l'argent.
Le gouvernement sénégalais a décidé d'activer les choses très prochainement. En attendant que la loi passe devant les députés, les artistes continuent de chercher eux-mêmes des financements à leur création. Ici au Sénégal, rares sont les entreprises qui soutiennent les créations artistiques. Diana Basseidouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
Oh, 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 oh. Nous accueillons à nouveau au Studio 13 Bagassi Koura pour les sports. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Coupe du Monde, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Sabri Lamouchi, a dévoilé une liste de 28.
Oui, Chérubin, sans surprise grande, on retrouve les principaux cadres, Didier Drogba bien sûr, les frères Yaya et Kolo Touré, Gervinho, Didier Zokora, Salomon Kalou, Boubacar Barry Kopa. En revanche, les défenseurs Emmanuel Eboué de Galatasaray en Turquie, Siaka Tiene de Montpellier en France et le milieu de terrain Romaric Ndri Kofi, qui était auparavant dans le groupe, n'ont pas été retenus. Deux joueurs évoluant dans le championnat local, les gardiens de but Sylvain Gouou de Sewe San Pedro et Ali Badra Sangare d'Asec Mimosa figurent également sur la liste.
Et parlant de la Côte d'Ivoire, disons que l'équipe effectuera sa préparation pour le mondial aux États-Unis.
Oui, c'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la FIFA, c'est la Fédération Ivoirienne de Football. Le premier regroupement chérubin se fera dès ce samedi à Dallas, dans l'état du Texas, avec une partie des joueurs. Le groupe sera au complet à partir du 22 mai et la première séance collective d'entraînement aura lieu le 25 mai. Deux matchs amicaux vont ponctuer le programme de préparation. Le premier contre la Bosnie, également qualifié pour le mondial. Le 30 mai à Saint-Louis. Le second match est prévu le 4 juin à Dallas contre Salvador. Le départ pour le Brésil, Chérubin, est prévu pour le 6 juin avec comme camp de base Águas de Lindoa dans l'état de São Paulo. On se retrouve là-bas?
Oui, on se retrouve au moins le 4 juin à Dallas pour ce match contre le Salvador. Passons à la NBA Bagassi Koura, suite des demi-finales régionales. Hier soir, Miami a battu Brooklyn.
Miami a battu Brooklyn 102 à 96 et au tableau des scores, donc c'est 3-1 pour Miami. Et Portland a battu San Antonio 103 à 92, même score pour en faveur de, donc, de quoi, San Antonio. Ce soir, Washington joue à Indiana, Indianapolis donc, leur cinquième match contre Indiana, ce qui domine donc cette série 3-1. Et Oklahoma affronte les Lakers de Los Angeles. Les Lakers, les deux équipes sont à égalité 2-2.
Merci Bagassi.
Allez, comme tous les soirs, on finit notre émission en musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Je croyais que Morgane allait dire en beauté, pas en musique, en beauté.
Ben oui, mais la musique, c'est beau.
Ben bien ça, c'est bon, c'est toujours bon. Mais écoute Morgane, José Adelino Barcelona, on dit José, de Carvalho di Bonga, né dans la province de Bengo en Angola, s'est consacré exclusivement à la chanson en 1972 et sort son premier album Angola 72. On l'écoute ce soir dans Banga Fukula.
Olha, tu sai do caminho, deixa o estiloso passar. Tem mais banga na passada, tem mais afinco no andar. Dá-me fogo,
vai ali.
Dá-me fogo, é?
Vai ali.
Aí dá-me fogo,
vai ali.
Dá-me fogo, é?
Vai ali.
Vê como enfrenta os mamos na hora de os encontrar. Pega mais é nessa fucula, é muito bom conservar. Dá-me fogo,
vai ali.
Dá-me fogo, é?
Vai ali.
Aí dá-me fogo,
vai ali.
Dá-me fogo, é?
Vai ali.
Xinga no areal do moceque, desliza no asfalto da cidade. Gongonha de farinha moceque, fez campeões de eternidade. Dá-me fogo,
vai ali.
Aí dá-me fogo,
vai ali.
Aí dá-me fogo,
vai ali.
Dá-me fogo, é? Engendra um caminho seguro, mesmo quando tudo está escuro. Já não joga na roleta, deixou de ser besta. Aí dá-me fogo,
vai,
aí dá-me fogo,
vai,
aí dá-me fogo,
vai,
aí curte meu. Dá-me fogo,
vai,
dá-me fogo,
vai,
aí dá-me fogo,
vai,
aí dá-me fogo.
Alors, descendant de colons métis, Bonga est d'abord un athlète réputé, en particulier un coureur du 400 mètres.
Oui, Morgan, et à ce titre, n'est-ce pas, il a représenté son pays, l'Angola, hein, dans plusieurs compétitions. José, comme l'a dit. José, n'est-ce pas, c'est ça, Gabi?
José Adelino Barcelo de Carvalho.
Ah, ben, très bien dit. Voilà tout ce que Gabi vient de dire. Ah, plus tard, il a plus tard, pris le nom de Bonga Quenda. Voilà, là, je peux bien dire
plus
ça.
Simple, hein, ouais.
Là, je peux bien dire ça, n'est-ce pas, Morgane? Bonga Quenda, pour revendiquer son appartenance africaine.
Dá-me fogo, engendra um caminho seguro, mesmo
mesmo quando tudo está escuro. Já não joga na roleta, deixou de ser besta. Dá-me fogo.
Voilà, Bonga, Bonga Fukula. Merci Roger.
De rien, Morgan.
Roger Muntouk, vous retrouvez dans quelques minutes dans le RM Show. Ainsi s'achève Le Monde Aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Joselle Morissin à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Morgan Guerrier au micro.
Et chez Ruben Orsi.
À demain.
Olha, tu sai do caminho, deixa o estiloso passar. Tem mais banga na passada, tem mais afinco no...